Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI. Comme chaque jour, votre rendez-vous avec l'émission consacrée au football planétaire. Et nous commencerons aujourd'hui par une icône sportive, mais aussi graphique et photogénique. Diego Armando Maradona n'en a pas fini d'inspirer une vaste production autour de son nom, même s'il a pris sa retraite de sa vie de génie du football il y a une vingtaine d'années. Un nouvel ouvrage est publié, presque une bible de ce dieu vivant, même si l'homme pourrait encore fournir de nouveaux chapitres à ce gros livre. Javier Pietro Santos, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir nous présenter cet ouvrage que vous avez coordonné. Il est publié par SoFoot aux éditions Marabout et nous en parlerons donc dans cette émission. Fini la trêve internationale. Bonjour les championnats, retour des clubs sur les pelouses et demain soir en ouverture de la 10e journée de Ligue 1 sur la Côte d'Azur, Nice PSG. Des hôtes, les aiglons qui ont besoin d'air pour voler vers le podium et des parisiens plombés, eux, par les absences qui rythment tristement leur début de saison et de nombreux clubs. Athènes Ben Arfa, Dani Alves, deux véritables amoureux déçus du Qatar PSG et qui règlent leur compte sur la place publique. Nous en parlerons, n'est-ce pas, Eric Rabessandratana?
Oui, bonjour Annie, bonjour à tous.
Bonjour Eric,
à tous.
Oui, ancien parler, joueur, hein. Vous n'êtes pas un amoureux déçu?
Ah non, moi je suis toujours amoureux.
Toujours amoureux, c'est important. Chérif Guémour de SoFoot, bonjour.
Bonsoir Annie, bonjour à tous.
Ça peut passer, Chérif, très bien, mais ça correspond au personnage, vous devez le savoir. Naïm Moniol, bonjour.
Salut Annie, salut à tous.
Camarade d'Eurosport, Chérif évidemment, de SoFoot, venu avec Javier Prieto. Et puis Olivier Pron qui est là, bonjour Olivier.
Bonjour, bonsoir, bonne nuit.
Pas encore bonne nuit. Radio Foot, c'est parti.
S'il est écrit que les destins d'exception doivent naître dans la boue, celui de Diego Maradona s'envole à la lisière de Buenos Aires dans un décor d'extrême dénuement. Il rejoint, le 20 février 1981, l'équipe du Boca Juniors. Jorge Sitterspieler, son ami d'enfance, promu manager, accepte alors la proposition du football club de Barcelone. 8 millions de dollars. Il sait qu'il a signé le plus gros contrat de l'histoire du football. Pibe de Oro, le gamin en or, récompensé meilleur joueur du championnat espagnol dès sa première saison.
Rétrospectivement, on dessine un peu la trajectoire du héros tiers-mondiste, un peu le Bob Marley du foot. Et il s'est retrouvé à Naples, qui incarne ce tiers-monde à l'échelle italienne.
Maradona, de Napoli. Ancora Maradona, di sinistro al volo. La parata di Zenga.
Ahí la tiene Maradona, lo marca el gol, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el 38 que para Borruchaga siempre Maradona. Genio,
novembre 2001, Buenos Aires, c'est fini. Diego Armando Maradona effectue son dernier tour de piste chez lui, dans son stade fétiche de la Bombonera.
Et ce 10 novembre 2001, eh bien RFI y était. J'y étais, n'est-ce pas, à ces adieux de Diego Armando Maradona. Des extraits d'ailleurs de ce documentaire Maradona de A à Z que vous pouvez voir, regarder sur YouTube si vous n'avez pas vu, si vous ne connaissez pas ce génie du football. Alors, ce livre, c'est un gros et grand livre de 200 pages à peu près, hein, Javier Pietro.
C'est ça, ouais, j'ai pas calculé, mais c'est ça.
Si, j'ai cherché, moi. Et ben, il n'y a pas des numéros sur toutes les photos pour pas les abîmer, mais il y a des numéros. Alors, en couverture, une belle photo d'un footballeur portant donc un maillot rayé blanc et bleu ciel, hein, l'Albi Celeste, et un numéro 10 en évidence. El Diez, ça suffit pour pas mettre de titre à ce livre ?
Je pense qu'il est assez iconique pour justement se débarrasser d'un titre qui pourrait de toute façon être secondaire, puisque Diego est... est un personnage iconique et je pense connu de tous les amateurs de foot et même de ceux qui n'aiment pas forcément le foot parce que c'est quelqu'un qui dépasse la réalité du terrain, disons. Mmh. Et donc oui, je pense que s'il y a bien un joueur qui personnifie le numéro 10 mythique en Amérique du Sud et même chez les puristes du foot, c'est bien Diego. Alors d'autres diront Pelé, mais pour moi, pour ma génération,
on va y venir à
c'est Diego.
On a senti. Hein.
Chéri qui a deux doigts de me mettre un coup de pied.
Il y a deux numéros 10. Allez,
calme-toi, chef.
Allez, il y en a deux.
En tout cas, sur la tranche de ce livre hein, publié aux éditions Marabout, eh bien, un titre ou sous-titre peut-être qu'on retrouve évidemment dans les pages du livre, c'est Maradona, fou, génial et légendaire. Alors, il y a eu beaucoup de livres sur le Dios, comme on dit, le dieu argentin du football. Cet été, il y avait eu le documentaire des années napolitaines, signé du Britannique Asif Kapadia. On se souvient aussi de ce film qui n'était pas vraiment un documentaire, mais aussi un film avec Maradona de Emir Kusturica, hein, il y a une douzaine d'années. On voulait vous poser une question, parce qu'on vous a invité donc dans Radio Foot en tant que coordinateur de ce livre, rédacteur en chef de SoFoot, mais pourquoi encore un livre sur El Pibe de Oro? Est-ce que c'est une mine d'or d'ailleurs?
Bah, déjà, c'est une mine d'or, et je pense que Maradona, même s'il a arrêté le foot il y a 20 ans, ça reste un personnage ultra moderne, je trouve. Il y a toujours quelque chose à dire, il a toujours quelque chose à dire, il se passe toujours quelque chose dans sa vie, et les analyses, on peut faire une analyse aujourd'hui de Diego Maradona, et cette analyse dans 20 ans pourra être affinée, pourra être différente. Il y a 10 000 manières et 10 000 façons de voir Diego Maradona, mais il n'y en a aucune qui est bonne. Vous avez parlé
même le joueur qui ne joue plus.
Même le joueur qui ne joue plus, parce qu'aujourd'hui encore, on se demande comment un petit joueur... j'ai le même physique que Maradona, je suis potelé comme lui, je suis tout rond, et pourtant je serais incapable de gagner une Coupe du Monde, vous voyez. Mais son corps était déjà un mystère pour la science, avec tout ce qui s'est mis dans le nez, tout ce qui s'est mis dans les veines, tout ce que les médecins lui ont infligé.
Il faudrait peut-être le léguer à la science d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup à faire, il y a des découvrir.
Voilà, mais non, mais c'est un phénix, il a failli mourir 4 fois, 5 fois, et il est toujours
2005,
là.
2005 notamment, quand il est hospitalisé notamment, à Buenos Aires.
Et voilà, ça reste quand même son corps est un mystère, sa personnalité est un mystère, sa personnalité évolue, même s'il raconte n'importe quoi, il reste toujours aussi... charismatique, je trouve. Et moi, c'est ce qui m'intéresse chez Diego. Et quand on parle avec ceux qui l'ont connu tout petit et qui l'ont suivi pendant sa carrière, on sent qu'il y a
filles,
un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui, moi, m'intéresse, que d'autres ont sondé, sûrement. Mais je trouve que Diego est fascinant. Après... je vais pas vous mentir, je suis assez fan de Diego Maradona, donc quelque part c'était un peu mon rêve entre guillemets de pouvoir faire quelque chose sur ce personnage. Donc voilà, c'est un peu il y a un petit côté égo là-dedans aussi. On va pas se
au bout de 200 pages, c'est plutôt Dr Jekyll ou Mr Hyde alors?
Bah moi j'aime bien les deux côtés. Je vais pas vous mentir. Aujourd'hui je trouve que tout est très lisse dans le football. Que les joueurs, bien souvent, n'ont rien à dire, qu'ils ont tous les mêmes coupes de cheveux, les mêmes fringues. Diego Maradona, on voit bien que son style, même son style vestimentaire a évolué, ça n'a jamais été un chantre de la mode,
non,
en dehors des terrains de foot.
C'est pas du tout une référence. Il est défilé pour Boss ou Armani, lui.
Mais il a un côté ringard, moi, qui me fait rire, et en même temps, ça l'empêche pas d'être une icône pour les Argentins. Et je sais pas, c'est quelqu'un qui m'interpelle, c'est quelqu'un qui me fascine, c'est quelqu'un qui me rébute parfois, c'est quelqu'un qui que j'ai envie de cogner, d'aimer. Enfin voilà, c'est un espèce de maelstrom d'émotions sur 1m60 par deux, quoi.
Eric Rabessandratana, vous qui êtes un ancien joueur de football, comment vous le voyez, comment vous le percevez, Diego Maradona? Vous vous arrêtez au joueur, vous vous arrêtez à l'artiste, vous vous arrêtez au génie?
Non, malheureusement, il y a tout le personnage, parce qu'il y a ce côté négatif aussi de cette image qu'il donne en dehors, mais qui fait quand même partie de lui. Alors, il nous a fait rêver d'un côté sur le terrain, il nous inquiète de temps en temps de l'autre côté, mais ça fait partie du personnage. On doit l'accepter comme ça.
Le joueur.
Le joueur. Mais moi, je reviens sur ce que tu disais. Et en fait, pour moi, Maradona, c'est la source du football, la vraie source du football, c'est-à-dire le football de la rue. qui arrive sur le terrain, qui grandit, qui avec ses défauts, avec ses merveilles, il a été capable de donner du spectacle comme personne, même aucun depuis.
Mais je trouve que Maradona est fascinant dans un sens, c'est qu'on a connu Maradona depuis qu'il est tout petit. Il y a des images de lui depuis qu'il a 7 ans. Sa première apparition télé, c'était dans une émission avec le Michel Drucker local à l'époque. Et donc, à partir de ses 7 ans, il a été starifié, filmé, photographié.
Au jour le jour.
C'est-à-dire qu'on peut tout documenter sa vie.
Il y a des photos extraordinaires dans ce livre.
Et très naturel.
Là, je vous rejoins.
Il n'y a pas de pause.
On le voit dans sa baignoire, on le voit dans des endroits où maintenant c'est impossible d'imaginer les stars d'aujourd'hui se prêtant à ça.
Voilà. Il a beaucoup donné à la presse.
Il y avait moins de photos qu'aujourd'hui.
Mais ça l'a mangé en même temps.
Ça l'a mangé, mais en même temps, ça. Je veux dire, il a dû supporter une pression depuis son tout jeune âge qui aujourd'hui paraîtrait folle ou peut-être normale, puisque Mbappé c'est un peu le même cas, mais lui a quelque part ouvert cette starification de footballeur.
Je sais pas s'il l'a vécu comme une pression en fait, parce que ça a tellement commencé tôt pour lui.
Non, je pense que le film de cet été montrait très bien comment
il a quand même tiré sur un journaliste hein, parce qu'il en pouvait plus la pression. Donc
c'est l'idole qui à un moment tout le monde l'abandonne après avoir tellement rongé l'os quoi. C'est ça, l'os du joueur et puis après l'os de l'homme.
C'est incroyable avec Diego. Non, mais je rejoins tout ce qui a été dit depuis le début de l'émission. Ce qui est incroyable quand même, c'est que c'est un mec du peuple, c'est un gars du peuple, la pauvreté, machin. Alors que si vous regardez aujourd'hui, la plupart des footballeurs, surtout en France, sont issus de banlieue, ont des histoires parfois un peu familiales, pas très drôles, voire dramatiques. Ils sont tous issus de quartiers avec la pauvreté et tout ce que ça peut engendrer. Mais aucun ne dégage ce que Maradona dégage. Qui pourtant vient à peu près du même milieu, pas dans le même pays, mais à peu près du même terreau social. Et aucun ne dégage, et même ceux qui sont aujourd'hui très forts, on parlait d'Mbappé, les Pogba, les machins, il n'y en a aucun qui dégage ce que ce mec-là dégage. Parce que le personnage, j'ai envie de dire malheureusement aujourd'hui, quand on voit parfois certaines images, a pris le pas sur le joueur, a nourri le joueur, et a pris le pas sur le joueur, on parlait toujours un peu d'une comparaison avec Pelé. Moi, quand j'écoute tout ce que Javier dit, il me fait surtout penser à Garrincha, en fait. Ce type qui n'avait absolument rien pour jouer au foot, il n'avait pas le corps, il n'avait pas l'esprit, il n'avait pas le mode de vie, et c'est, excusez-moi l'expression, une putain de légende. Et en fait, il est en ce sens un peu plus proche de Garrincha que de Pelé. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Maradona, parce que j'aime beaucoup Pelé. Moi qui suis un peu plus jeune que vous, je l'ai surtout vu, son but contre le Nigeria en Coupe du Monde 94. C'est après, en grandissant, qu'on apprend l'histoire de ce mec-là. Et je me rends compte que si aujourd'hui on en parle toujours de la même manière, c'est parce que son personnage, le joueur qu'il a été, le personnage, est beaucoup plus fort que tous les mecs qu'on a aujourd'hui qui sont issus du même milieu.
Justement, on se posait la question aussi ce matin. Est-ce que on doit parler de Pelé justement parce qu'on connaît un peu la dispute entre eux et notamment ce vote de la FIFA un peu surréaliste il y a quelques années qui est le joueur du siècle et Cristiano et Messi. Eux, ils jouent encore. Eux, ils alimentent encore leur légende actuellement. Messi hier en ayant reçu ce 6e soulier d'or de meilleur buteur donc d'un championnat européen. Cristiano Ronaldo avec ses 700 buts marqué cette semaine et chacun avec 5 ballons d'or et on a l'impression que malgré tout Maradona qui ne joue plus continue à alimenter sa légende.
Tout simplement parce que je pense que Maradona dépasse toutes les notions statistiques. Quand on parle de Messi, quand on évoque Messi Ronaldo, on est obligé de parler de chiffres. Ils ont cassé des records qu'on pensait qui pouvaient paraître éternels quelque part. Ils ont des statistiques des joueurs des années 40 où à l'époque ils mettaient 60 buts par saison. Ben Ronaldo et Messi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce sont des machines. Et moi, ce qui m'intéresse chez Maradona et ce qui le rend quelque part très humain aussi, c'est son humanité. C'est quelqu'un qui peut vous sortir. Il le dit, enfin, tout le monde l'a souvent dit, mais le match qui illustre à la perfection le côté ange et démon que n'ont pas Messi et Maradona, c'est son match contre l'Angleterre. Il vous sort
1986,
un but extraordinaire où il dribble toute l'équipe. Mmh. Et de l'autre côté, il vous sort la main de Dieu et il a quand même la présence d'esprit de dire à la fin aux journalistes, c'est pas moi qui ai mis le but, c'est la mano de Dios. Donc c'est pas une invention journalistique. Ça, c'est lui. C'est-à-dire que Messi et Ronaldo peuvent mettre 4000 buts, ça ne leur viendrait jamais à l'esprit d'avoir une phrase aussi iconique et qui les représente aussi bien. Messi, c'est un génie sur le terrain, mais en dehors, pour l'avoir vu et pour lui avoir parlé, il est inintéressant au possible. Je préfère parler à ma boulangère. Ronaldo, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se construit une image, c'est un robot, c'est Terminator, c'est un joueur extraordinaire. Et quelque part qui est en train de s'humaniser vers ces dernières années, ces derniers temps, je trouve. Mais qui ça, mais sa magie s'arrête sur le terrain. Il y a pas de.
Il y a un côté Forrest Gump, un peu.
Voilà, on n'a pas envie de. Mécanique. J'ai pas envie d'être son ami Diego. J'ai envie d'aller à Buenos Aires avec lui, qui mange 50 pizzas, qu'on partage des bières
c'est ça,
ou
en
autre
fait,
chose.
Le truc, c'est que
on a envie d'être son ami. On a envie de le cajoler. Messi, Ronaldo. Ce sont des super-héros, des Avengers,
ça, des robots.
C'est que Maradona, on l'a vu tellement dans des états de faiblesse et pitoyables, soit ça. Parce qu'il était obèse, soit parce qu'il était complètement drogué, qu'il a failli mourir, ou il est capable de la moitié vomir en direct dans une, voilà. C'est qu'on l'a vu tellement dans des états pathétiques, pitoyables, qu'on se prend presque un peu d'empathie pour lui, alors que, bah, il a quand même fait des trucs très répréhensibles par rapport aux autres aujourd'hui qui sont des espacistes, c'est vrai.
Un peu.
Ça fait rien de joueur.
Les mecs aujourd'hui, ce sont des comme disait Ravière, des Superman, des Avengers, des machins, mais oui, pas très intéressant.
De votre livre, alors il y a des chapitres, hein, sur sa vie, sur ses excentricités, sur sa famille, sur ses filles, sur son fils.
Sur tout le monde.
Il a 8 enfants, oui. Reconnus officiellement. Alors il y en a peut-être plus encore. Il y a aussi son côté politique, on se souvient, ses allées et venues avec Cuba et Fidel Castro, et d'ailleurs les tatouages qu'il a, le Che Guevara et autre chose sur les bras.
Et
le béret, effectivement, et puis quand il est passé par la blondeur.
C'est pareil, avoir un béret de Fidel, il y a Only Maradona.
Mais dans la préface qui est signée Omar Da Fonseca, donc quand même un joueur argentin, qui raconte que quand il était plus jeune, il l'a rencontré d'abord Maradona, hein, qu'il le fascinait. Il dit qu'il était fasciné par l'intensité avec laquelle il vivait les choses. Donc ça rejoint ce que vous racontez, c'est-à-dire quelqu'un d'imprévisible. Il y a deux, trois phrases qui sont intéressantes. Il dit: la précarité éveille la créativité. Donc on parlait de quelqu'un qui vient de très bas.
Bien sûr. Hein,
c'est quelqu'un qui vivait dans une villa. Une villa, qu'est-ce que c'est? C'est une favela.
Une villa, comme on dit à Buenos Aires,
comme on dit. Et une villa, c'est l'équivalent argentin des favelas. Et c'est quelqu'un qui disait chez moi, Maradona disait chez moi, je suis né dans un quartier pauvre, dans un quartier privé d'électricité, d'eau,
de tout
quoi. Mm-hmm. Mais il a de l'humour sur ça. Mais c'est quelqu'un qui vient d'une misère extrême. Et c'est ça, c'est en ça que c'est aussi magique son parcours. C'est que le petit souillon qui vient de nulle part, à qui on ne promet rien, à qui
oui, mais il a été rattrapé par tout ça, par tout ce qui lui a manqué,
devient l'espèce de dieu vivant, et ça devient Icare, c'est-à-dire à force de toucher le soleil, voilà. Malheureusement il s'est fait descendre, quoi.
Il écrit aussi Diego, c'est le triomphe de l'émotion sur la raison.
C'est vrai?
Hein? Mais j'ai cité certaines phrases. Oui, je trouvais justement ça assez intéressant pour rentrer dans ce livre. Et puis alors, selon lui, c'est le dernier joueur qui a un lien amoureux avec le football. Alors ça, on retombe sur certains...
Sur le manque de passion.
Voilà, exactement. Où les gens voient aussi plutôt le football comme une ascension sociale que comme la passion du sport et de l'art.
Ouais, on se perd un peu là sur les joueurs
à
sur
notre
époque. Ouais, on se perd entre l'argent, l'envie de changer de club toutes les deux secondes, il y a pas d'attachement, j'allais dire réel, de passionnel, je pense, au niveau des joueurs de maintenant. Donc c'est un peu dommage. Je fais pas une généralité. Il y en a bien sûr, mais il y en a beaucoup moins qu'avant.
Un petit document sonore amusant qu'on a trouvé, c'était ces derniers jours, puisque en Argentine, Dieu redescend des fois sur terre, voire sur une pelouse. Et en ce moment, après avoir été sélectionneur en 2010, il y a des photos avec Messi hyper jeune, bien sûr, il y a 9 ans. Et avoir entraîné surtout des clubs un peu confidentiels à l'étranger, Diego a pris en main le club de Gimnasia de La Plata. Donc La Plata, c'est à une cinquantaine de kilomètres de Buenos Aires. Et après 8 victoires pour ce club, il est venu là pour les sauver. Eh bien, ils ne sont plus à la dernière place parce qu'il y a eu une première victoire. Et
après
Diego,
8 défaites.
Oui, après huit défaites et une première victoire, 1-0, hein, simplement. Mais alors, Diego a chanté et dansé dans les vestiaires. Diego Diego Maradona, il est donc en ce moment entraîneur. On n'est pas sûr qu'on l'ait pris plus pour son nom que pour son art de la tactique et pour attirer peut-être de l'argent ou des abonnés. Mais en tout cas, est-ce que les Argentins lui pardonnent toutes ces frasques, eux, les Argentins ? Si nous, on peut sans les comprendre.
Moi, il y a un texte dans le livre de Martin Caparros, qui est un écrivain argentin, que personnellement j'adore, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est dans le livre, et qui m'a dit un jour, mais c'était pas dans le cadre de ce livre-là, qui m'a dit un jour, Diego peut tuer des gens, que les Argentins finiront toujours par lui pardonner.
Mais on pense à Monzon, alors.
C'est énorme.
C'est le seul personnage, c'est le seul héros populaire, même s'il en énerve beaucoup en Argentine. Diego énerve beaucoup par ses positions politiques, notamment, par le fait qu'il l'ouvre tout le temps, par le fait qu'il a toujours un avis sur tout, et qu'il peut être fatigant. Mais le jour où il mourra, je suis pas sûr que, enfin, je pense que les Argentins lui pardonneront tout, et parce que, il aura quand même donné plus de visibilité à l'Argentine que la plupart de tous les gens ou de tous les sportifs réunis de ce pays. Donc je trouve que c'est un personnage qui est fascinant aussi sur ce point de vue-là, parce que là c'est un vrai Argentin, il est patriote, et les Argentins c'est une grande gueule, c'est tout, en fait il est tout ce qui n'est pas Messi, et c'est aussi pour ça que Messi n'accroche pas avec l'Argentine quelque part. On a plutôt l'impression quand on voit Messi que c'est limite un étranger, parce que les Argentins lui demandent d'être un caudillo, un petit chef, un leader technique, un leader en dehors du terrain, une grande gueule. Tout ce qui était Maradona, quelque part, il faut qu'il soit excessif, mais Messi ne peut pas se forcer à l'être. Et Maradona représente l'argentinité, comme pour nous, par exemple, Omar Da Fonseca peut la représenter, où c'est un mec qui est un peu effervescent, qui balance 50 000 références au foot. On sait pas très bien ce qu'il dit tout le temps, mais c'est pas grave, c'est chatoyant, c'est solaire, c'est lumineux, et donc c'est amusant, et on a envie aussi de passer une soirée avec Omar Da Fonseca. Donc Maradona, c'est pareil, mais pour les Argentins, et puissance 50 000.
Shérif ?
Non, mais la dimension de Maradona, elle est un peu reliée, c'est un peu le dernier des Mohicans de toute la génération des grands sportifs des années 70, où les sportifs de cette époque-là, c'était des sportifs à l'extrême. C'est-à-dire qu'ils jouaient avec leur vie, ils jouaient avec les émotions des autres, c'était charismatique, que ce soit en football, en tennis, en Formule 1, il y a eu beaucoup de morts, les gars, ils y allaient à fond, ils ne calculaient pas. En boxe aussi, c'est toute une génération extrême, beaucoup de grandes gueules, mais même en cyclisme, on y allait à fond, des Anquetil, des Eddy Merckx, c'est vraiment, lui, c'est un peu le dernier de cette génération-là, c'est-à-dire jusqu'au boutiste, qui brûle la vie par les 40 bouts. Donc voilà, lui, il est resté. Ça s'est beaucoup assagé ensuite dans tous les sports. Lui, c'est un peu le dernier qui est resté. Et la dimension qu'il a, c'est que je pense, ça a été le premier où, comme disait Ravir tout à l'heure, qui a été tout de suite médiatisé très très jeune jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, on pourrait parler de Pelé, mais c'est pas pour une comparaison idiote, est-ce qu'il est le plus grand et tout. Mais bon, dans la vie de Pelé, il nous manque à peu près les 400 premiers buts qu'il a marqués. C'est énorme, c'est 400 beaucoup, buts, parce que voilà, beaucoup. C'est du noir et blanc, c'est la fin des années 50. Alors que Maradona, on a tout décortiqué, enfin, pratiquement tous ses matchs championnat argentin, on a au ralenti avec 18 caméras tous les matchs qu'il a fait avec l'équipe d'Argentine, et là, évidemment, image arrêtée au ralenti sous plusieurs angles, on voit le génie qu'on n'a pas pu voir chez les autres. C'est pour ça qu'il a autant imprégné. Moi, je me rappelle, j'ai grandi avec lui, un jour, c'est quoi, 177, Coupe du Monde Junior, Argentine, bah URSS. Et on voit un petit gars et tout, fait des trucs pas possibles. Évidemment, ça marque. Donc, il a marqué, il continue de marquer. Et en plus, moi, bizarrement, plus le temps passe, plus je lui trouve une cohérence, notamment dans son discours politique. Avant, je trouvais ça un peu confus, aujourd'hui, il y a une cohérence. Voilà, c'est un Sud-Américain grande gueule politique qui, globalement, s'est pas trop trompé Alors après, il y a ses accointances avec le dictateur Castro et tout ça, et tout. Mais bon, l'Argentine, c'est aussi un pays de grands révolutionnaires, je pense Che Guevara et tout. Il est resté fidèle un peu à cette ligne-là. Et on se rend compte aussi que toutes les attaques qu'il a portées en faveur des joueurs, contre la FIFA. Aujourd'hui, il a raison. Il y a un peu comme le discours de Platini. Ouais, il avait raison.
C'est vrai.
Donc, il a toujours dit, la FIFA est une mafia, on ne respecte pas les joueurs, on les traite comme des bêtes de somme. Mine de rien, les faits lui ont donné raison avec l'explosion.
D'ailleurs, c'est la suite de l'émission. on va aborder ce thème.
Quel visionnaire, chef.
Non, mais il est voilà, c'est il a plusieurs dimensions. C'est ce qui fait le charisme du bonhomme, c'est ça, c'est qu'il est multidimensionnel.
Bon, ben en tout cas, je vous conseille de feuilleter ce livre, de le regarder, de le lire, de l'apprécier. Ouais, beau livre.
Ah, il est beau, il est beau.
Qui pèse au moins 5 kilos, hein, n'est-ce pas?
Au moins.
Mais pour acheter le chevalet. Mais...
Et vous savez, c'est amusant parce que Maradona, il nous poursuit dans Radio Foot International. La première émission de ce programme, c'était le 1er novembre 2010 et c'était au moment où Maradona avait eu 50 ans. Et comme en plus notre réfé à tous, le chef du service des sports est argentin.
Comme par hasard.
On avait commencé par Diego Armando Maradona
et il est toujours là.
Omar Da Fonseca était venu dans l'émission parce qu'il fallait qu'on en parle et qu'on comme ait des témoins. Quand même. Donc voilà, Diego Armando Maradona, ce très beau livre donc de SoFoot hein, aux éditions Marabout et qu'on vous invite à lire, à feuilleter, à voir des images. Plongez-vous dans Maradona, vous serez jamais déçu, c'est bien ça?
On sera jamais déçu avec Maradona. Il nous décevra jamais, je pense.
Il y a même plein de petites infos là. Il y a les photos évidemment, mais toutes ces quelques pages là avant d'arriver.
Ah oui, évidemment, il y a des infos.
Il y a plein de petites infos. Ouais. Très très rigolote. Ben, on peut pas dire que ça brille. Il y a pas beaucoup de texte dans votre affaire.
Ah si.
Il y a des photos.
Ah si. Non,
il y a des grands textes. Mais toutes les petites infos au départ sont tellement drôles. Moi, je retiendrai ces idées à la con. Pardonnez-moi, c'est lui qui l'a écrit. Penser que le paradis est équipé d'un baby foot. Je signe tout de suite.
C'est vrai.
On se marrerait bien.
Non, mais après, voilà, ça, c'est un beau livre, ou en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'édition. Mais, alors oui, il y a des photos, mais il y a aussi beaucoup de textes. Et on s'est quand même un peu cassé les pieds avec les textes. Il y a énormément d'intervenants et des intervenants que vous n'avez jamais lus ailleurs.
Et des photos qu'on n'a jamais vues ailleurs aussi.
Elles sont belles, les photos.
Parce qu'on peut toujours avoir tout vu.
Je veux dire, c'est pas une redive de chez redive, de redive. C'est pas la petite maison à Paris, quoi.
Celle avec Queen, là, je regarde, moi, personnellement, c'est ma préférée.
Elle est très chouette, effectivement, ouais, oui, mais même celui où il est dans sa baignoire, celui où il est avec ses manteaux.
Femme, un homme dans sa baignoire.
Non, avec ses manteaux absolument improbables.
Mais moi, j'ai une question pour Ravière. Est-ce que ça a été compliqué de trouver de l'originalité, de la singularité dans Maradona? Parce qu'il y a tellement eu de support depuis des années sur lui qu'à un moment donné, justement, pour éviter cette réédition, est-ce que c'était très compliqué?
Je sais pas si... Non, ça n'a pas été très compliqué, parce que à mon avis, c'est... Encore une fois, par exemple, il y a... Si on parle... Je prends l'exemple du préparateur physique. Si on parle avec le préparateur physique que l'on voit dans tous les documentaires de Maradona, et qu'on lui pose des questions quelque part métaphysiques, c'est comme des jukebox. Il suffit de poser la bonne question et les mecs s'envolent. Avec Maradona, je sais pas pourquoi, ça n'arrive avec aucun autre joueur, on a l'impression que tous ceux qui témoignent sur Diego deviennent des espèces de philosophes avec des envolées lyriques. Et ce sont des machines à anecdotes. Parce que, comme on le disait au début de l'émission, c'est quelqu'un qui vivait à fond. Et quand on vit à fond, on brûle la vie par tous les bouts. Et quand on a cette vie-là, cette fast life-là, comme on dit en anglais, eh ben, ça devient une espèce de machine à anecdotes, de machine à créer du bonheur ou du malheur. Mais quelque part, il entraîne tout le monde avec lui. Donc Maradona, quand il vous prenait sous son aile, il vous prenait aussi dans cette spirale complètement folle, dans son tourbillon de vie.
C'est quelqu'un d'entier, donc je pense qu'après, il n'y a pas de mesure. Donc c'est
et,
ça
donc,
le problème.
Et donc, il suffisait, de passer, ouais, il suffisait de passer deux mois avec lui pour que vous ayez des anecdotes à raconter ad vitam aeternam. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire que si vous posez des questions et que vous documentez un peu, vous pouvez toujours aller au-delà de de ce qu'on a déjà lu ailleurs. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce livre-là. Et il se trouve que ça a été fait par des gens qui parlent espagnol et beaucoup de fois, par exemple, j'ai vu le documentaire d'Asif Kapadia qui est sorti récemment, mais les images sont, je vais pas critiquer, les images sont très bien, mais je trouve qu'il est resté un peu à la surface. Mm-hmm. Il aurait pu poser avec d'autres questions, avec d'autres angles, je pense qu'il serait le documentaire aurait été encore mieux. Je trouve que pour les amateurs de Diego comme moi,
quand même,
J'ai pas découvert des choses extraordinaires. Donc, je dis pas que vous allez en découvrir dans le livre. J'espère. Et je pense que oui. Mais Asif Kapadia s'est reposé sur l'image, sur l'icône. et oui, quelque part, il a pas gratté assez, quoi.
Ben voilà, vous avez quelque chose à faire, alors.
Non, mais après, c'est aussi la période napolitaine. Non, mais là, vraiment, les images de bêtes traquées, là, tu les vois. Ouais. Là, fallait les... Après, évidemment,
on en avait beaucoup parlé dans Radio Foot, d'ailleurs, de ce documentaire au moment où il est sorti. Voilà pour ce qui est de Diego Armando Maradona, qu'on voit aussi sur la quatrième page de couverture tenant cette fameuse Coupe du Monde de 1986.
Je regardais le prix, c'est pas cher, vous pouvez y aller, c'est pas très cher en plus, pour un gros livre comme ça, avec plein de belles photos et plein d'infos, franchement... Non mais c'est vrai, je dis pas ça en plus.
Les fêtes approchent.
On en parlera sur la page Facebook de l'émission, vous trouverez tous les renseignements. On continue.
Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville.
On dit beaucoup Neymar se blesse tout le temps, mais Mbappé il s'est blessé aussi, à peu près la même blessure. Cavani, ça fait un moment qu'il est blessé. Est-ce que c'est pas un problème aussi au PSG, le staff médical?
C'est surtout au niveau de l'ischio-jambier tous.
Allô maman bobo, allô maman bobo.
Fini la trêve internationale, une trêve sous le signe de l'infirmerie cette fin, parce que le retour des joueurs sous les couleurs de leur club est parfois clopin-clopant. Et le premier match de la Ligue 1 se disputera au bord de la Méditerranée. Le PSG attendu de pied ferme à Nice, mais privé de certaines stars, on va y venir, face à une équipe du gym envahi de doutes. Peut-être que cette équipe niçoise d'ailleurs en tirera avantage, car l'infirmerie du PSG donc ne désemplit pas. Neymar vient d'y rentrer à nouveau, blessé de ses deux matchs avec le Brésil à Singapour. Idrissa Ganagay le rejoint dans l'infirmerie après le même voyage pour un des mêmes matchs, Sénégal-Brésil. 9 mois que l'on a perdu de vue, nous rappelle l'équipe en une aujourd'hui, qu'on a perdu de vue la MSN. Alors M pour Mbappé.
MCN.
MCN, pardon.
MSN, c'est chez ceux d'en
exactement.
Face.
Exactement. C'était ceux d'avant, pardon.
C'était celle qui marchait.
Voilà, exactement. Neymar et Cavani. Thomas Tuchel, d'ailleurs, tout à l'heure, à la veille du match, l'a avoué, il avance dans le noir.
C'est trop. Pour les joueurs, c'est trop. Ce sont trop de compétitions. Coupe d'Afrique, U21, Copa América. Prochaine encore, Copa América. Mais oui, chaque année maintenant. Le championnat européen, ça n'arrête pas. Et pour moi, c'est trop. Ce sont trop de matchs pour les mêmes joueurs. À la fin, on peut sentir ça manque de qualité et ça manque de santé. On manque de phase pour préparer, pour faire sport sur le meilleur niveau.
Alors, Thomas Tuchel déplore, on a entendu déjà ces derniers temps, beaucoup d'entraîneurs commencer à se lasser de toutes ces exigences. En plus, Olivier...
C'est bien, il n'aura plus la Coupe de la Ligue à jouer l'année prochaine. Il va être content, Thomas Tuchel. Ça fait déjà une compète qui va disparaître. C'est vrai que c'est toujours un peu agaçant, ces discours sur...
Mais oui.
Ça date pas de cette saison. Qu'il y a beaucoup de matchs. Je me souviens ici d'Abid Bey, il disait, mais nous les joueurs, on a envie de jouer tous les 3 jours, on est là pour ça. Donc,
sauf qu'aller jouer à Singapour et revenir avec autant de
Thomas Tuchel fait partie, en étant au PSG, du football circus. C'est le football circus.
Sans doute, peut-être que d'ailleurs c'est le prix à payer. Ouais. Peut-être que c'est le prix à payer pour dominer le championnat, c'est-à-dire avoir des stars internationales. Qui du coup peuvent être absentes sur certains matchs.
Non, mais dans le cas de Tuchel, ça fait un peu sourire vu l'effectif qu'il a. Enfin, pratiquement tous les postes sont doublé, donc ça fait sourire. Mais ensuite, par contre, il a changé par rapport à l'époque dont tu parlais, c'est qu'aujourd'hui, c'est hyper concurrentiel. C'est-à-dire que avant, il avait des effectifs un peu réduits. Là, il y a une concurrence beaucoup plus grande. Et quand on s'absente, on n'est pas sûr de garder sa place. Regardez avec Cavani. Cavani, du temps de Zlatan, il y avait une grosse concurrence. Donc, il y avait pression. Là, maintenant, il y a Icardi qui vient d'arriver. Mais c'est pareil à tous les postes. Meunier n'est pas sûr de jouer. Kurzawa n'est pas sûr de jouer. Il y a vraiment la moitié des postes au PSG.
Il est sûr de pas jouer.
C'est mieux quand il joue pas, même.
Vous m'avez compris. Vous voyez l'idée. C'est ultra concurrentiel. Pourquoi? Donc, ce qui fait qu'il y a des joueurs qui reviennent trop tôt. Mbappé est revenu trop tôt. Cavani est revenu trop tôt. Neymar, avec le Brésil, revient trop tôt. Pourquoi? Parce qu'il y a une crainte. Donc il y a cette pression. Donc
et d'ailleurs, après, c'est vrai qu'il y a des joueurs à Singapour, c'est sans doute pas l'idéal.
Ils sont obligés d'y aller.
Évidemment, et sûrement par les contrats. Mais d'ailleurs, Olivier, là, on se disait bon, la MCN, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, mais on va peut-être voir la MC ce week-end et on verra peut-être que c'est.
on devrait les voir l'un et l'autre, sans doute pas titulaires, mais ce qui est surtout amusant, je sais pas, c'est sûrement pas amusant, intéressant, c'est de voir qu'à chaque fois qu'on a l'impression qu'on va les revoir, cette MCN ensemble, et ben quand il y en a un qui revient, il y en a un autre qui se blesse. Oui. C'est sans fin, ça fait ils n'ont pas été titulaires depuis le 19 janvier hein, ensemble. 19 janvier,
le match de Guingamp,
le 9-0 contre Guingamp, ça fait 10 mois même, 10 mois, c'est quand même énorme.
Est-ce qu'on la regrette? J'ai pas forcément nécessairement envie de la revoir.
Il faut pas lancer là-dessus, mon petit bonhomme.
Non, bah, peut-être, mais Cavani, il était un peu ignoré de Neymar et de Mbappé, donc je pense que s'il y en a un qui a envie de la revoir, c'est le PSG.
C'était pas un PSG au summum?
Bah, je trouvais pas. En fait, on parle d'un trio MCN, ok, très bien, mais Cavani, il faut se rappeler de ce qu'était Cavani dans ce trio, c'est-à-dire rien. Vu que Mbappé, Mbappé et Neymar jouaient pour eux, ils étaient très contents. Mais parfois, ils évitaient de faire la passe à Cavani.
C'est la phase de poule de Ligue des Champions il y a 2 ans.
Tout simplement le début.
Tout d'un coup, avec Anderlecht, il y a 4-0, 5-0, il y a 7-1 contre Glasgow. Là, il y a un automne. Enfin, c'est souvent comme ça avec le Paris Saint-Germain. Ouais, surtout, il y a un automne, on se dit waouh, ça va y aller. Et puis, ça a fait pchit comme souvent en février-mars.
Au-delà des blessés au PSG, ce qui pose problème, en tout cas à Thomas Tuchel et pour ceux qui suivent le PSG, c'est que le jeu n'est pas bon au PSG. L'équipe joue pas super bien. Elle gagne, mais elle joue pas super bien.
Ces temps-ci.
Ah, cette saison, je dirais.
Depuis le début de saison.
Moi, je dirais cette saison quand même. Même sur la fin de saison dernière. Hein. Le deuxième semestre 2010, le premier semestre 2019, c'est pas terrible.
Après Manchester.
Et puis les remplaçants sont pas tous au niveau. C'est-à-dire que, évidemment, si vous avez Neymar blessé, Mbappé blessé, Gay blessé, c'est quand même des joueurs qui sont titulaires dans votre équipe, qui font partie des meilleurs, c'est contraignant. Mais si le PSG avait un jeu comme il l'a eu il y a 3-4 ans où il était au moins sur la scène nationale, il était très bon. Il jouait bien avec des remplaçants qui faisaient le job. Ça serait un moindre mal, parce que le PSG gagnerait ses matchs, il serait bon, et voilà. Ce qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui, la moindre blessure, la moindre absence peut entraîner des mauvais résultats. On l'a vu déjà cette saison, on l'a vu sur la deuxième
contre
partie de saison dernière.
Contre Reims, contre Rennes, et même
des matchs gagnés sont parfois gagnés laborieusement. Donc c'est surtout ça maintenant qui devient gênant avec le PSG. C'est qu'il y a deux ans, trois ans, il y a deux ans, trois ans, les blessés, c'était dommage parce que c'était des stars, mais l'équipe jouait bien. Aujourd'hui, les blessés, c'est-à-dire que l'équipe joue mal.
Juste 2-3 stats sur la MCN qu'on avait dans le journal L'Équipe ce matin, mais qui sont intéressantes. En 2017-2018, ils ne jouent finalement que 15 matchs ensemble. La saison dernière, 10 matchs tous les trois. Cette saison, donc, 0, puisqu'il y en a toujours un blessé. Mais ce qui est amusant, c'est quand les trois sont titulaires. Alors déjà, les trois titulaires, ils n'ont jamais perdu sur une compétition nationale.
Déjà.
Nationale. Ouais, jamais. En championnat, en coupe, même. Et tout ça. Mais le nombre de buts la saison dernière, quand ils sont tous les trois titulaires, c'est 4,1 buts par match. Quand ils ne sont pas là, n'est pas là, on divise par deux quasiment, on est à 2,4 buts par match. Voilà, c'était juste pour donner, c'était assez intéressant d'avoir cette statistique.
Dans le championnat ou en Ligue des Champions? Parce qu'en Ligue des Champions,
sur la saison.
Encore une fois,
ils ont très peu joué ensemble,
mais c'est un trio qui n'a pas été acheté pour jouer le championnat. Ils ont été achetés pour soulever la Ligue des Champions, on est d'accord. Après, c'est de constater que ce trio en Ligue des Champions.
On le voit pas.
Mais tu l'as pas tout le temps.
Moi, ça me dérange.
Oui, mais là, ce que tu dis, c'est vrai. Sauf que, par rapport aux blessures et tout ça, tu ne l'as pas eu. Au moment où tu avais besoin de ce trio, tu ne l'as jamais eu, complet. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un des blessés. Donc, à partir de ce moment-là, les stats que tu donnes, sont complètement anéantis parce que tu ne peux pas te servir de c'est ça le drame de
cette histoire. C'est ça la bonne nouvelle de la blessure de Neymar maintenant. C'est qu'il sera là au printemps.
Annie, juste pour revenir sur Tuchel. Moi je trouve qu'il botte en touche quand même, parce que là parler du nombre de matchs et tout ça, t'es gentil, mais parle-moi s'il te plaît de la gestion des joueurs, de la gestion du travail physique, de la gestion de la récupération des joueurs après justement ces nombreuses compétitions. Moi il y a un problème là-dedans. Après il y a certainement un problème peut-être pour les joueurs tout seuls à l'extérieur qui font peut-être des conneries, j'en sais rien, mais en tout cas par rapport à tout ça,
ils ont changé
parle-moi de ça déjà.
Il y a toujours autant de blessés.
Parle-moi de ça, c'est ça. Parce que là ça fait beaucoup depuis Manchester, ça fait beaucoup de joueurs qui sont blessés. Il y en avait 9 là quand on a parlé. Mais c'est pas une question de médecin, je pense qu'il y a autre chose.
Ça concerne tout le monde. Le meilleur homme depuis le début de saison, on est tous d'accord, c'est Idrissa Gueye. Bon, pas de bol. Lui aussi, ça va durer que 10 jours.
Bon, après, il a fait la canne et machin. C'est toute l'histoire. Là, Mbappé est en train de payer sa Coupe du Monde, où il a pas été blessé du tout l'année dernière. Et du coup, hop, cette année, comme par hasard, ça arrive. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça qui font que.
Mais Neymar, c'est pas forcément médical. Enfin, il a quand même 27 ans. À 27 ans,
évidemment,
c'est médical. Mais je veux dire, c'est une fragilité. Mais je me rappelle avant la Copa América d'avoir vu son match quand il se blesse contre le Qatar. Sincèrement, c'est des coups qu'on voit 50 fois par match. Et d'autres joueurs.
Il y avait autre chose dans l'air aussi.
Il y avait peut-être autre chose dans l'air. Mais le coup qu'il reçoit récemment et qui va le tenir éloigné des terrains pendant 3 semaines, 4 semaines, je ne sais plus, un mois.
6 matchs.
Ça reste un coup où normalement, à 27 ans, si on se prépare bien, on se relève. Là, il y a une vraie fragilité physique. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, si c'est à sa mauvaise préparation, si c'est au fait que sa tête soit ailleurs ou ait été ailleurs, au voyage. Un peu tout ça sans doute, mais je trouve que Neymar a une fragilité qu'il ne devrait pas avoir à cet âge-là.
Alors un petit mot sur l'OGC Nice quand même, parce que Nice c'est peut-être une chance d'avoir un PSG qui n'aligne pas toutes ses stars. Le gym est certes à 3 points du podium, mais quand même dans une mauvaise série. Il a perdu beaucoup de matchs, 4 défaites en 9 journées. Il aura des absents aussi, Ounas et Nsoki qui sont blessés et Attal qui est suspendu, mais Patrick Vieira, l'entraîneur des Niçois, veut jouer face aux Parisiens.
Je pense que je ne vous apprendrai rien sur le Paris Saint-Germain par rapport à la qualité individuelle de cette équipe, mais aussi à la force collective qu'il y a. Ce qu'il faut, nous, c'est être cohérent dans ce qu'on veut faire, et surtout, quand on a le ballon, ne pas avoir peur de jouer vers l'avant pour justement leur poser des problèmes. Il faut que nous, on joue pour essayer d'aller marquer ce but, pour être agressif sur le plan offensif. Si nous on pense seulement à défendre contre Paris, c'est même pas la peine de jouer le match, quoi.
Bien sûr.
L'OGC Nice dans un drôle de moment, ouais. Mais peut-être que le mieux quand on joue au Paris Saint-Germain, on le dit quand même assez souvent, Naïm, c'est jouer.
Oui, bah de toute façon, les équipes qui restent dans leur camp et qui attendent, elles en prennent une, donc autant jouer. Une trempe. Ils n'ont rien à perdre.
Une valise. Et voilà. Ils n'ont rien à perdre.
Il faut jouer. Et en plus, malheureusement, il leur manque des joueurs. Il leur manque leur meilleur joueur, en fait. Il leur manque Attal, qui va être suspendu. Il leur manque Ounas. Ils viennent de récupérer Dante. Derrière, il y a encore un blessé, Nsoki, vous l'avez dit. Bon, le vrai souci de l'équipe de Nice, c'est que l'équipe est faible, en fait. Ils ont un peu rectifié le tir sur la fin de Mercato avec justement Ounas et Dolberg, qui sont des bons joueurs. Mais l'équipe est faible, l'équipe est jeune, et en plus, elle est faible. Et bien, l'investisseur qui vient d'arriver, qui profite aussi de la localisation de Nice pour en faire une espèce de plateforme économique, marketing, machin.
Riviera.
S'il veut que son équipe aille concurrencer le haut de tableau, faut acheter des joueurs, parce que vous regardez derrière, vous regardez au milieu. C'est des joueurs qui sont très jeunes et des joueurs qui sont vraiment d'un niveau très moyen.
Eric,
c'est pas la politique.
C'est ce qu'on disait juste avant. Nice, toutes ces équipes, Nice, Nantes, profitent du fait que Lyon n'est plus à la hauteur, que Monaco n'est pas là, que
Marseille n'est
voilà,
pas là.
Donc que Marseille, traîne la patte
piétine.
Un peu. Bon. Mais voilà, non, mais c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'ils sont là. Maintenant, ils ont fait leurs résultats normalement, comme ils pourraient faire toutes les saisons. C'est une équipe de Nice qui est moins intéressante qu'avant quand même. Parce qu'avant, elle pouvait poser des problèmes. Là, elle est quand même en plus avec ses joueurs en moins. Voilà, c'est beaucoup moins intéressant.
Dans un championnat qui ronronne, hein, parce que vous venez de dire que Nice 7e est à 3 points du podium, mais à 4 points du premier relégable. Donc la densité.
Non, mais ce qu'on attend. Oui, parce qu'on attendait des nouveaux investisseurs, les frères Radcliffe, c'est qu'ils inscrivent durablement un projet qui a commencé il y a de très très nombreuses années. Axé sur les jeunes et axé sur un vrai jeu à la barcelonaise, justement, 4-3-3.
Claude
Puel
était passé par là pour ça.
Et René Marsiglia
avec l'entraîneur suisse.
Lucien Favre.
Favre, voilà. Donc, ce qui s'est passé, il y a une génération qui a monté, les séries, Cosiello, Saint-Maximin. On les a vendus, ils sont partis.
Ouais, Saint-Maximin.
Il va falloir rebâtir un effectif, c'est le boulot de Vieira. Je trouve qu'il s'en sort pas si mal. Est-ce qu'il y a une patte Vieira? On peut pas le savoir parce que c'est une équipe en reconstruction. Mais pour la crédibilité des nouveaux investisseurs, il va falloir faire, comme ils le disent, faire grandir les jeunes. Mais est-ce qu'on peut les prendre au sérieux ou est-ce qu'ils ne lorgnent pas le projet du voisin monégasque, c'est-à-dire acheter jeunes et
revendre
pour les revendre au bout de 2-3 ans.
Commerce,
voilà, c'est ça.
Le projet monégasque,
ils prétendent le contraire.
Le projet monégasque, on voit ce qu'ils donnent depuis 2-3 ans.
Ils sont derrière.
C'est pour ça qu'on peut s'inquiéter aussi.
On
peut s'inquiéter aussi. Mais ils rectifient le tir à Monaco. Ils achètent du joueur confirmé maintenant et mature.
On va regarder ça à la loupe. Justement, évoquons eh bien ces joueurs qui ne se sont pas quittés bons amis avec leurs dirigeants et qui mettent un peu les rancœurs sur la place publique à travers évidemment les fameux réseaux sociaux. Alors on a Dani Alves, ça nous a particulièrement accroché là, et notamment vous, Eric. Dani Alves, le Brésilien qui a quand même porté durant 2 ans les couleurs du Paris Saint-Germain et qui dans un tweet dit Paris est une ville stressante, je l'aime pas beaucoup. Alors bon, il y a plein de choses. Et puis surtout, il dit que c'est une ville qui...
Dites-le.
Fatigante, qui lui rappelle Sao Paulo. Et que c'est une ville pleine de... Je le dis, putain de raciste.
Ouais, faut le dire, il l'a
beaucoup.
Dit.
Avec moi, ils n'ont rien fait parce que je les aurais envoyés se faire voir. Mais je l'ai vu avec mes amis. Est-ce que c'est pas du dépit de la part de Dani Alves?
Vas-y.
Non, je pense que c'est la frustration de cette fin de
parce qu'on n'a pas renouvelé son contrat.
D'histoire, ouais, mais il y a aussi plein
Neymar.
De choses. C'est-à-dire que j'ai appris ça il y a 2-3 jours où apparemment lui avait organisé une réunion avec les Parisiens et les Parisiens n'étaient pas venus à cette réunion et ça, ils lui ont fait 2 fois le coup. Donc ils avaient vraiment pas du tout envie
une
de prolonger.
Une réunion où
avec ses représentants.
Au Lido.
Non, je sais pas. Mais en tout cas, il devait se voir.
Les dirigeants ou les joueurs?
La nuit.
Dani Alves devait rencontrer les dirigeants parisiens,
les
dirigeants n'étaient pas venus au rendez-vous.
D'accord.
Et 2 fois, ils lui ont fait le coup. Donc, je pense que ça rajoute aussi au fait que, il a pas prolongé alors qu'il voulait prolonger. Du coup, il y a la frustration,
l'amertume.
Sa fin de carrière qui finit peut-être pas comme il voulait. Donc,
on va être clair et net, ce qu'il a dit c'est parfaitement abject, il n'y a rien de plus infamant que de qualifier une ville, un club,
il parle même pas du club, il parle de la ville.
Il a pris 8 millions d'euros par an avec Qatarien et il adorait
Paris. Je mets ça de côté, on peut en parler, mais je mets ça de côté, c'est parfaitement abject, il n'y a rien de plus d'infamant en 2019 que de qualifier un club, une personne, un groupe, une ville de racisme. Ouais, mais peu importe, mais c'est un mot vachement...
d'une ville.
Non, mais c'est vachement fort. Bah alors, dans ces cas-là, tu l'étayes. Si t'as eu des problèmes, tu portes plainte.
Il l'a étayé.
Parce qu'en
fait, c'est pas... En fait, je comprends le shérif. Et c'est vrai que quand on lit la déclaration comme ça, on se dit, mais en fait, il se fout de la gueule du monde.
On s'est tous dit ça.
Évidemment, même moi. Mais si on lit toute sa déclaration, je l'amende pas. Mais quelque part, il dit, Paris est une ville raciste, nanani, nanana. Je n'ai pas été victime moi-même de racisme, mes amis l'ont été. Les Parisiens sont des personnes froides. J'ai préféré vivre à Séville ou à Barcelone où quelque part ils ont plus de folie. Alors franchement, si vous prenez le métro parisien, je dis pas que Paris est une ville raciste. Loin de là, évidemment qu'il y en a.
Mais
je veux dire que Dani Alves a le droit de donner son opinion. Et Thiago Silva, il faut se rappeler de Thiago Silva quand il arrive au PSG. La première chose qu'il dit, c'est les Parisiens disent jamais bonjour, disent jamais au revoir. Ils sont des
agréables. C'est l'image que les Parisiens ont.
Zlatan. Moi, ce qui m'interpelle dans les déclarations de Dani Alves, et je finis là, après je vous laisse la parole, c'est que les joueurs du PSG, les grosses stars, on a l'impression qu'elles sont pas à l'aise à Paris, alors que c'est une ville, c'est considéré la plus belle ville du monde. Il y a une œuvre culturelle extraordinaire. Ils sont en France. Enfin, je veux dire, ils sont pas en prison. Et Zlatan avait du mal. Neymar a du mal. Dani Alves a lui aussi du mal parce qu'il voulait retourner à Barcelone. Raya aussi a eu un peu de mal. Thiago Silva au début a eu du mal. Enfin, je veux dire que c'est pas un cas isolé, même si lui le dit avec des mots un peu bizarres.
Le disent. On en parlait avec Annie hier, qui connaît bien ce sujet-là, pour avoir vécu au Brésil, que lui dise. C'est une ville de racistes. Quand on est soutien comme il l'est de Bolsonaro,
évidemment,
ça fait quand même doucement rigoler. C'est un peu comme si Pablo Escobar nous traitait de narco.
Et surtout, comparer Paris à Sao Paulo, qui est une ville horrible. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué.
De béton grise. Effectivement,
mais
qui a une super vie nocturne. Mais
non. Il est donc totalement stupide.
C'est abject.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, Javier, d'être venu nous voir. Et merci donc pour ce très beau livre, Maradona, fou, génial et légendaire. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer cette émission. Laurent Salerno à la réalisation aujourd'hui. On vous dit à demain.